IBEM.
IBEM, Institut Biblique, enseigne-moi, la formation biblique par excellence. Des enseignements de grande qualité spirituelle et loin.
Vous écoutez un cours de première année, année qui comprend plus de 300 heures de cours en audio et vidéo.
Institut Biblique, enseigne-moi, pour ceux qui ont soif de grandir.
Rendez-vous sur www.ibem.fr.
www.ibem.fr.
Donc prière numéro 1. Prière numéro 1, c'est donc votre premier cours qui sera dispensé sur ce sujet qui est extrêmement important. Et s'il y a prière numéro 1, bien sûr, il y aura prière numéro 2. Vous aurez prière numéro 2 juste après les deux cours que nous avons là. Vous passerez vos examens et après, effectivement, vous aurez prière numéro 2. Donc, c'est un gros sujet, ce sujet qu'on aura ensemble. La première partie, donc prière numéro 1, va être surtout sur les généralités sur la prière. Donc c'est ce que vous aurez, généralité sur la prière, d'une manière générale. Donc on définira ce qu'est la prière, et puis la prière bien sûr néo-testamentaire, c'est-à-dire sous la Nouvelle Alliance, savoir comment prier, en tout cas avoir les lois de la prière qui nous permettent vraiment d'avoir une position. Je vous montrerai bien des choses qui vont un peu révolutionner votre vie de prière. Deuxième partie que nous aurons, ça sera prière numéro 2. Là, on étudiera chaque sorte de prière. Parce que après avoir vu des généralités pendant tout un cours, eh bien, il faudra avoir l'aspect pratique. Si j'ai telle situation, quel type de prière je peux utiliser pour être efficace? Alors moi, personnellement, dans ma vie chrétienne, pendant plus de 10 ans, je suis resté sur ma faim concernant la prière. Parce que je m'apercevais que bon, c'était bien, j'étais chrétien, né de nouveau, je fréquentais l'église, j'étais fidèle au Seigneur, je marchais pas dans le péché, j'étais baptisé du Saint-Esprit. De temps en temps, je voyais un petit truc là, un petit truc là que le Seigneur faisait. Mais d'une manière générale, je me suis retrouvé dans une situation, après plus de 10 ans de conversion, en me posant beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et j'avoue franchement que j'en avais un peu ras-le-bol, parce que j'étais donc né de nouveau dans une église de Pentecôte. Après, j'avais bougé chez les charismatiques. J'avais appris un peu plus sur la louange et l'adoration, ça c'était clair. Mais je dois dire que je restais dans le vague concernant la prière. Et ça m'affectait vraiment, parce que je me disais quand même, c'est bizarre. On parle d'un Dieu puissant, on parle d'un Dieu qui bouge, on parle d'un Dieu qui agit. Mais finalement, quand je regardais ma vie, je me disais, bon, bah c'est pas ça quoi. J'avais fait un bilan assez négatif en me disant, ma vie spirituelle, c'est pas ça. J'ai un problème de ce côté-là et j'avais un sérieux, sérieux problème de ce côté-là. Puis finalement, quand on est parti aux États-Unis, on a eu la grâce de pouvoir faire cette école biblique que nous avons fait et dont nous vous apportons les enseignements ici. Et là, je peux vous dire que j'attendais impatiemment le cours sur la prière. Parce que je voulais voir quand même, Kenneth Hagin avait fondé ce ministère. Ça faisait plus de 50 ans qu'il était dans le ministère, qu'il avait été utilisé par le Seigneur. Et je peux vous dire que j'avais vraiment soif d'entendre les enseignements qu'on allait donner à l'école biblique. Ce n'était pas lui le professeur, mais en tout cas, c'était des gens qui enseignaient ce que lui-même avait enseigné. Et je dois dire que ce cours, pour moi, j'avais soif. Je me suis dit quand même, il faut que je sache des choses. Il faut que je sache là où est la vérité, d'où est l'erreur. J'avais entendu vraiment parler que le Seigneur l'avait vraiment dirigé d'abord à écrire pas mal de livres sur la prière. Et puis aussi, plusieurs fois, le Seigneur lui avait dit d'enseigner son peuple sur la prière, sur le sujet de la prière. Parce que je pense que vous êtes un peu comme moi, en tout cas certains d'entre vous, vous êtes aperçus que de la littérature sur la prière, il y en a beaucoup. Énormément. Je dirais, des bouquins sur la prière, je dois dire que si on cherche dans les librairies chrétiennes, on va en trouver beaucoup. On va voir que c'est un sujet qui est assez souvent traité. Malheureusement, quand on va d'un côté, on lit un bouquin, on va lire un autre bouquin, on va encore lire un autre bouquin, puis finalement, comme on dit en français, on va commencer à y perdre son latin. Ça veut dire qu'on a l'impression que les gens se contredisent, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vous font des grands exposés sur la prière dominicale, le Notre Père. Il y en a d'autres qui vous remettent sous l'Ancien Testament et qui vous disent que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, alors je l'invoquerai des cieux, etc., etc. Puis finalement, on ne sait plus trop où on en est. On n'arrive plus vraiment à savoir. On se dit, mais finalement, qui a raison? Moi, j'avais lu pas mal de bouquins, beaucoup de paroles que Jésus avait dites, on les interprétait, etc., sur la prière. Et puis finalement, j'en étais arrivé au point que ça ne m'avait pas éclairé. Au contraire, j'étais encore plus confus. Et finalement, j'ai vraiment entendu des enseignements, finalement, à l'école biblique qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup béni et qui m'ont fait comprendre ce qu'était la prière. Alors évidemment, quand nous recevons des enseignements, ce n'est pas du jour au lendemain où nous allons entrer à la lumière de ces enseignements. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut que vous sachiez, je pense que vous commencez à comprendre, que ce n'est pas parce qu'on a une connaissance biblique que nous marchons à la lumière de cette connaissance. Ça demande du temps. Et s'il y a bien un sujet qui nous demande du temps pour évoluer, je dirais, dans le domaine, c'est le sujet de la prière, bien sûr. Ce sujet de la prière nous demande du temps à pratiquer parce que c'est l'expérience avec Dieu, tout simplement. C'est cette relation avec Dieu que nous développons. Et il est évident que notre relation avec Dieu, nous ne la développons pas du jour au lendemain. ça demande du temps, ça demande de la pratique pour voir des résultats. Mais l'important, c'est d'avoir d'abord soif de la connaissance, puis après, soif de vouloir appliquer ces enseignements. Donc si vous suivez vraiment ces enseignements sur la prière, que vous reprenez ça à la maison, que vous passez du temps avec la parole de Dieu et que vous dites au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi sur ce sujet, je vous garantis, votre vie de prière va décoller. Ça, c'est clair. Pour moi, ça, c'est clair. Moi, j'avoue que ma vie de prière a décollé. Je vois des résultats aujourd'hui que je n'avais jamais encore vus dans ma vie personnelle ou même dans mon ministère, mais je sais que je suis loin d'avoir une maturité dans ce domaine-là. Par contre, je sais que j'ai progressé grâce justement à ces enseignements. Ça demande du temps, comme je vous le dis. Bon, mais on est en chemin. Vous savez, on est à l'école de Dieu, comme disait un frère. Nous sommes à l'école de Dieu. Tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes à l'école de Dieu. Et jusqu'au dernier souffle de notre vie sur la terre, cette école continue. L'important, c'est de passer les examens, entre guillemets, de Dieu, c'est-à-dire d'avancer avec lui et de voir de plus en plus le Seigneur agir en notre faveur et bien sûr en faveur de ceux qui nous entourent pour pouvoir d'une part les amener à Christ efficacement et de pouvoir aussi les amener dans la bénédiction pour qu'ils puissent mieux connaître Dieu d'une manière générale. Alors, première partie, nous allons voir généralité sur la prière. Première partie, généralité sur la prière. Chapitre 1, définition de la prière. Chapitre 1, définition de la prière. Définition de la prière. Alors, s'il y a bien un sujet où beaucoup de chrétiens ont l'air convaincus de faire la bonne chose, alors que souvent ils ne font pas la bonne chose, c'est le sujet de la prière. On voit des gens parfois dire qu'ils prient, dire qu'ils passent du temps dans la prière, des jours et des jours dans la prière, et puis on s'aperçoit que beaucoup de ces gens, quand ils sortent de ces soi-disant moments de prière, ou de ces groupes de prière, ou d'églises dans lesquelles on dit on va prier, jeûner pendant 40 jours, on va faire ceci, on va faire cela, on s'aperçoit quand on parle avec les gens en sortant de ces temps-là, la plupart du temps, quand vous discutez avec eux, vous vous apercevez que on se demande vraiment s'ils ont rencontré le Seigneur. Et ça, vraiment, moi des fois, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, où on a été beaucoup trimballés dans différents groupes de prière et d'église. Et en fait, on voyait des gens, souvent on les rencontre, on dit « Ah, je suis dans le jeûne et la prière, je suis là, je crois que le Seigneur va bientôt faire quelque chose pour moi, je crois que là, oui, oui, oh !» Alors, vous savez, la réponse très, avec l'air un peu religieux de la personne, vous savez, qui dit « Oui, vraiment, je suis en train de prier en ce moment. » Puis on se demande vraiment s'il est en train de prier ou s'il est en train de pratiquer un truc. Vous savez, ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans un monde irréel. Ils pensent que c'est le monde de Dieu, mais finalement, c'est le monde de la religion. Et le domaine de la prière excelle. Dans ce domaine-là, quand on parle de la prière et des chrétiens, les chrétiens ont l'air d'exceller dans ce domaine, de vivre dans un monde qui est complètement faux, la plupart du temps. Je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont comme ça. Et ils n'arrivent pas à comprendre que la prière n'est pas forcément ce qu'eux, ils pensent. Mais ce que la Bible, au contraire, va nous montrer, et aussi, bien sûr, ce que des hommes de Dieu vivent, parce que c'est ça qui est important. Alors, définition de la prière. La prière, notez que ce n'est pas un devoir religieux. La prière n'est pas un devoir religieux, mais c'est un style de vie. La prière n'est pas un devoir religieux, mais c'est un style de vie. C'est un style de vie. Prier de manière générale... Prier de manière générale veut dire communiquer avec Dieu. C'est ça que ça veut dire en fait. Prier égale communiquer avec Dieu. Prier veut dire communiquer avec Dieu. Quelqu'un a dit un jour, c'est la respiration de l'âme, de la vie si vous préférez, de la vie spirituelle. On n'utilise pas trop ce mot âme parce que nous avons tendance à tout de suite penser à la deuxième dimension de notre être. Mais c'est la respiration de notre vie spirituelle si vous préférez. C'est ça la prière. Parce que, rappelez-vous d'une chose, quand nous communiquons avec Dieu, nous communiquons avec quelqu'un qui est quoi ? Quelqu'un qui est invisible. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne peut pas blaguer avec l'invisible, vous savez. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'invisible. Parce que là, qui dit invisible, dit que nous parlons à quelqu'un donc que nous ne voyons pas. Et si on s'adresse à cette personne de la bonne façon, scripturairement parlant, à ce moment-là, nous pouvons voir les plus grandes des choses. Mais si nous commençons à persévérer dans des choses qui ne sont que religion ou choses bizarres, c'est là où nous nous trompons. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. Parce que nous parlons avec l'invisible. Nous parlons avec l'invisible. Quand tu parles au Seigneur, tu parles à quelqu'un qui est invisible. Si tu parles d'une façon scripturaire, que tu fais la chose selon les Écritures et t'en es de nouveau, là, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Mais si tu commences à faire des choses qui dépassent les Écritures, là, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que nous voyons certains chrétiens qui sont bizarres, je vous le dis. Il y a des gens vraiment bizarres. Moi, ça me choque toujours. Mais il y a vraiment des gens, parfois, vous n'avez jamais rencontré des chrétiens qui sont absolument convaincus, qui sont en train de prier. Et quand vous les entendez parler, vous vous dites, non, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas le Seigneur, ça. Il dit, mais si, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, je sais que c'est Dieu qui m'a dit de faire ceci, c'est Dieu qui m'a dit de faire cela. Rappelez-vous, nous parlons à quelqu'un qui est invisible. Et c'est ça la prière. La prière, c'est communiquer, mais avec quelqu'un qui est invisible, d'accord, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, bien sûr. Il va y avoir des lois qui vont régir la prière. Alors, en d'autres termes, notez, prier, c'est s'adresser à Dieu. En d'autres termes, prier, c'est s'adresser à Dieu, communiquer avec lui, et vous pouvez mettre entre parenthèses, passer un temps de qualité avec lui. Passer un temps de qualité avec lui. Et je n'ai pas dit de quantité. Eh oui, c'est là où beaucoup de gens se trompent. Passer un temps de qualité avec lui. Vous savez, il vaut mieux passer 5 minutes par jour avec Dieu, mais vraiment, vraiment de qualité, plutôt que de passer 3 ou 4 heures où il y a n'importe quoi qui est dit et qui est fait. Je vous assure, ça vous fera du mal de faire ça. Et je connais beaucoup de chrétiens qui font ça. Ils disent qu'ils vont prier, en fait, ils vont pas vraiment prier. Ils font des trucs, tout un tas de trucs, parce qu'ils ont vu d'autres faire ça, ils répètent des formules qu'ils ont entendues à droite et à gauche, etc. Mais finalement, c'est pas un temps de qualité, c'est pas un temps relationnel avec Dieu. Et rappelez-vous que notre alliance est basée sur la relation avec lui. Tout ce que vous faites doit être du relationnel. Alors le domaine de la prière, c'est vraiment le côté expérimentation. Expérimentation de la communion avec Dieu. C'est ça la prière. C'est cet aspect de relationnel avec Dieu. Tu t'adresses à lui et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est là où c'est la qualité. C'est ça qui importe. Moi, dans ma vie spirituelle, un jour, j'ai tout mis par terre comme ça. J'ai dit, si ce que je fais, ça va pas, je préfère repartir à zéro. Mais ce que je veux, c'est côté qualité. Côté qualité. Et c'est ça qui m'intéresse. Si tu mets 2 heures à entrer dans la présence de Dieu parce que ton âme est en train de dire tout un tas de choses et que ton cœur ne s'ouvre pas, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Pendant ces 2 heures, tu as pédalé dans le vide, comme on dit si bien. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Par contre, si vraiment tu apprends quelques clés spirituelles, tout simplement, qui te permettent d'entrer dans sa présence d'une façon très simple, tu passeras quelques minutes parfois. Et tu pourras être complètement renouvelé et voir la réponse à ton besoin ou à ton problème, quel qu'il soit. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas aller perdre mon temps à faire une espèce de truc religieux bizarre, vous savez. Où finalement, on sort d'une réunion de prière et puis les gens commencent à s'interroger. Au fait, on a prié pourquoi dans cette réunion, vous savez. Les gens, ils sont là, ils disent, mais au fait, on a prié pourquoi. On a présenté 250 000 sujets au Seigneur et finalement, on a quoi. J'exagère un peu, mais souvent, c'est ça. Vous savez, les gens jettent leur sujet de prière dans le panier, en quelque sorte, et puis ça part dans tous les sens. On verra la prière individuelle, on verra la prière collective. On verra qu'il y a des lois qui régissent les choses, si on veut voir des résultats. L'important, bien sûr, c'est de pouvoir voir Dieu intervenir dans notre situation et aussi de passer du temps avec Dieu, du temps de qualité, tout simplement. Donc c'est vraiment, voyez vraiment cet aspect-là dans la prière. À partir du moment où tu dis, je veux passer un moment avec Dieu, je veux prier, ça veut dire, ce que je veux, c'est passer du temps avec lui, cœur à cœur. Pas simplement répéter des formules, essayer de faire un truc un peu bizarre. Non, c'est pas ça. En tout cas, si c'est ça votre vie de prière, eh bien, il faudra réformer les choses, il faudra vous déreligiosiner une bonne fois pour toutes. Parce que vous savez, la religion, dans ce domaine-là, ça nous colle à la peau. Malheureusement, ça nous colle à la peau, terriblement. Et ça, on a besoin de changer, on a besoin de grandir. Donc communiquer avec lui, passer un temps de qualité avec lui, lui demander nos besoins, et entre parenthèses, les voir ses besoins répondus. Lui demander nos besoins, entre parenthèses, et voir ses besoins répondus, que Dieu réponde à notre prière. Lui demander nos besoins et voir nos besoins répondus, c'est le remercier, le louer, l'adorer. Le remercier, le louer, l'adorer. Vous voyez, ça va englober beaucoup de choses, toutes ces définitions. Alors, quelqu'un d'autre a donné la définition suivante. La prière, c'est simplement et intimement, d'une façon intime, proche, la prière, c'est simplement et intimement avoir une conversation avec notre Père Céleste. Ça, j'aime beaucoup cette définition aussi. La prière, c'est simplement et intimement avoir une conversation avec notre Père Céleste. Donc ça nous donne déjà un certain nombre de points sur lesquels on va pouvoir commencer à enseigner sur la prière. Alors, une chose qu'il faut que nous sachions à propos de notre communion. Regardons 1 Jean 1.3. 1 Jean 1.3, parce que si on parle de communion, ben, il va falloir qu'on commence à voir ce que ça veut dire. 1 Jean 1.3, il y a un très beau verset. La deuxième partie du verset nous dit, 1 Jean 1.3, « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Or, notre communion est. Il n'est pas dit « Or, notre communion sera au futur » ou « Que notre communion a été » et puis sous-entendu « n'est plus ». Mais il est bien dit « Or, notre communion est ». C'est un présent continu. Présent continu dans le grec, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure, quelque chose qui demeure, quelque chose qui ne cesse pas. Notre communion, c'est un présent. Communion, ça veut dire aussi relation. C'est synonyme. Or, notre relation est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Un autre passage dans 1 Corinthiens 16 nous dit bien sûr que notre communion est aussi avec le Saint-Esprit. Notre communion est avec Dieu d'une manière générale. C'est quelque chose qui a été ouvert au travers de quoi ? De notre nouvelle naissance, bien sûr. Le fait d'être né de nouveau nous a ouvert la relation avec Dieu, c'est-à-dire a rendu possible le fait que nos péchés soient pardonnés, le fait que le Saint-Esprit soit venu habiter en nous, que nous ayons cette nature divine en nous maintenant, que nous soyons part de la famille de Dieu, que nous faisions partie de la famille de Dieu, fait automatiquement que nous sommes en communion avec Dieu. C'est ouvert, c'est là, c'est maintenant, depuis ce jour-là. Depuis ce jour où vous êtes né de nouveau, où je suis né de nouveau, la communion avec Dieu a été rendue possible. La connexion a été faite, si vous préférez. Cette connexion existe. Elle est là, elle est ouverte. Et il va falloir en profiter, c'est tout. Tout simplement. Il va falloir en profiter. Il va falloir profiter de cette relation. Mais elle est là, elle existe. Elle n'est pas à chercher, elle n'est pas à s'ouvrir, puisqu'elle est là. Nous ne pouvions pas le faire par nous-mêmes. Cet aspect d'ouvrir cette relation avec Dieu, c'est Jésus qui a fait ça pour nous. Le fait que nos péchés soient pardonnés, c'était le mur. Le mur, c'était nos péchés. Bon, maintenant, nous verrons que la nature, le fait que notre nature n'était pas de Dieu, ne pouvait pas nous permettre d'être dans la famille. C'est pour ça que Dieu nous a fait naître de nouveau. Et le fait que Dieu nous ait fait naître de nouveau, nous sommes devenus de la famille. Nous sommes participants de la nature divine, nous faisons partie de la famille, et donc nous sommes en relation, en communion avec Dieu. Ça, c'est un fait, et un fait sur lequel vous devez méditer. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ce verset de 1 Jean 1.3, c'est un verset qui est important à réaliser. Pas seulement dire, bon, bah, je suis là, je suis un chrétien, bon, bah, c'est vrai, Jésus m'a sauvé, gloire à Dieu, alléluia. Bon, d'accord, ça, c'est la base. Bon, c'est ce que vous avez vu, maintenant, on va pas revenir là-dessus. Vous savez ce que c'est qu'être une nouvelle créature, vous savez qu'il n'y a plus de condamnation sur vous, vous savez que vos péchés sont entièrement pardonnés, vous savez que vous avez été acquitté devant le tribunal divin, tout ça, vous le savez maintenant, il n'y a plus de problème. Bon, mais maintenant, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir passer à l'étape suivante, découvrir que vous êtes en relation avec Dieu. Et dans une relation, eh bien, notez qu'une relation, ça a deux sens. Une relation, ça a deux sens. Une relation, c'est parler, mais c'est aussi écouter. C'est aussi écouter. Et là aussi, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, ils parlent à Dieu. Ça, trouver des gens qui parlent à Dieu, ça, on en a une foule. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Des gens bavards devant Dieu qui leur racontent toutes leurs histoires. Ça, le Seigneur, il en a beaucoup, des gens comme ça. Par contre, des gens qui écoutent Dieu, Ça, c'est un autre problème. Ça, il y en a déjà beaucoup moins. Et une relation, ça va dans les deux sens. Une relation, c'est pas moi qui parle à Dieu ou au mur, dans certains cas, pour certains chrétiens, on dirait. Mais c'est Dieu aussi qui va te parler. Donc, il y a forcément un échange. C'est dans les deux sens. La relation est ouverte dans les deux sens. Hein, si vous êtes au téléphone, que vous n'avez que le droit de parler et l'autre, il a le droit que d'écouter, bah, la conversation va pas être très, très prenante. Hein. Vous avez l'impression de dire des choses, mais vous savez pas si la personne comprend ce que vous êtes en train de dire. Elle ne vous répond pas, donc si elle n'a pas la possibilité de vous répondre, c'est très gênant, vous imaginez un peu. C'est très gênant. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il est votre père, il est mon père. Si je lui parle, il doit y avoir quelque chose qui se passe, forcément. Il doit y avoir une réponse de sa part. Il doit y avoir une action de sa part. Moi, si j'obéis dans sa parole, lui, il va faire quelque chose au travers de cela. Vous voyez, il y a une réponse. Il y a une communication. Il y a une communication. Si je loue, je l'adore, il va parler dans mon cœur, il va me fortifier. Il y a une réponse de sa part. Si je lui demande quelque chose de particulier dans la foi, eh bien, il doit répondre, il doit envoyer quelque chose, une réponse. Si vos prières sont encore, vous avez l'impression que vous parlez à un mur, ben c'est qu'il y a simplement un problème d'abord de compréhension. De compréhension peut-être sur la définition de la prière, de compréhension par rapport à votre relation avec Dieu. Mais quand on naît de nouveau, c'est une réalité. C'est une réalité et il va falloir que ces choses se développent. D'abord, il va falloir en comprendre le sens, non pas avec notre tête seulement, mais avec notre esprit. C'est-à-dire que ça se révèle, ça va se révéler. Il faut que ça se révèle bien évidemment. Vous connaissez l'aspect de la révélation de la parole de Dieu dans nos cœurs, dans notre esprit, pour que justement nous puissions entrer dans une dimension. Donc en fait, ça va être parlé cœur à cœur. La prière va être parlée de cœur à cœur. Et là aussi, il va falloir s'impliquer. Moi, je me souviens, c'était un des plus gros problèmes que j'avais dans ma vie spirituelle. Tout se passait dans la tête. Ça, pour parler à Dieu, je parlais à Dieu, mais tout se passait dans la tête. Mon cœur, mon esprit n'était pas impliqué dans ce que je faisais. De temps en temps, il y avait une goutte qui tombait et ça allait bien. Mais c'était très, très limité. Et ça, c'était vraiment un problème. Et j'ai vraiment prié contre ça. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'arrive pas à m'impliquer? Je suis là, bon, je prie. Hein, vous savez, comme le style, on apprend que, par exemple, il y a des enseignements qui disent, oh, quand même, quand Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller une heure, vous savez, au moment de la croix, au moment de la tentation, là. Jésus passe par un moment très difficile, il se tourne vers ses disciples, il se soumet à la volonté du Père, il se tourne vers ses disciples et dit, vous n'avez pas pu veiller une heure. Alors, il y a certains qui ont pris ce texte et qui en ont fait une doctrine, en quelque sorte, et ils ont parlé du culte personnel, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, du temps que chaque chrétien doit passer avec Dieu. Bon, c'est bien, gloire à Dieu, c'est une bonne initiative. Mais certains se sont dit, bon, moi je pars au boulot, il faut que je parte tôt au boulot, donc je vais me lever à 5h du matin, jusqu'à 6h je vais prier, et après je vais partir. Il y a plein de gens qui se sont mis à faire ça. Et la plupart, ils s'endormaient, vous savez. Hein. Moi je me souviens, j'ai fait ça aussi. Je commençais à me lever très très tôt le matin, parce que je pensais que c'était là où Dieu allait agir plus particulièrement pour ma vie et tout ça. Je me levais très tôt, et puis finalement, c'est pas mauvais de se lever très tôt, mais ça dépend de la motivation. Tout dépend de votre motivation et de votre relation, tout simplement. La prière, c'est pas un truc. C'est pas une méthode. Là, on parle de relation. C'est pas une méthode. Il y a trop de gens, ils sont dans des méthodes. Ils entendent un témoignage d'un livre et ils prennent le truc comme argent comptant et ils font la même chose. Ils disent les mêmes mots, ils pratiquent le même. Ah, tel serviteur de Dieu a réussi dans sa vie spirituelle, alors moi je vais faire la même chose. Et alors, on se met là, on commence à appliquer des méthodes. Et vous savez, des méthodes sans relation, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas une méthode, Dieu n'est pas une machine. C'est pas comme les histoires là de casino là où vous mettez une pièce, un jeton, vous tirez la manette et puis si vous avez de la chance, vous avez le gros lot et si vous n'avez pas de chance comme la plupart du temps, eh bien vous allez perdre votre argent. C'est pas une machine Dieu. On jette pas un jeton de prière et puis on voit si on tire le gros lot la réponse ou si au contraire y a rien qui se passe. C'est pas que Dieu n'est pas ça. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Et les méthodes ne satisferont jamais Dieu. Ce qui peut satisfaire Dieu, c'est ton désir d'une relation intense avec lui, de plus en plus intense avec lui. Sinon, ce n'est pas la prière, c'est du baratin, c'est du blabla, c'est du makelele, c'est tout ce que vous voulez, mais des gens discutent, parlent à Dieu, racontent tout un tas de trucs, et finalement, ils ne vont pas loin avec ça. Ils n'accomplissent strictement rien. Rien, parce que ils voient Dieu comme une machine, comme une méthode, comme des règles à appliquer. Et finalement, il n'y a rien qui transperce. Parce que Dieu n'est pas une méthode et Dieu ne répondra jamais à une méthode. Ce qui marche pour certaines personnes ne fonctionnera certainement pas pour toi. Parce que souvent, quand on lit des témoignages ou même certains enseignements en disant « oui, j'ai réalisé qu'il manquait ça dans ma vie spirituelle », souvent ça commence comme ça. Vous allez lire des témoignages de pasteurs, ils vont vous dire « oui, il manquait ça dans ma vie spirituelle et finalement, j'ai dit que je consacrerais une heure au Seigneur tous les jours ». Il y avait un pasteur comme ça, je crois que c'était par exemple David Wilkerson avait commencé comme ça, celui qui a amené Nicky Cruz au Seigneur, vous savez, il connaissait un peu le film « La croix et le poignard ». Dans sa vie spirituelle, ça avait commencé comme ça. Bon, il regardait la télé tous les soirs pendant des heures et des heures, puis sa vie pastorale, sa vie spirituelle personnelle, c'était bon, doucement quoi. Et puis un jour, il a commencé à réaliser qu'il passait pas assez de temps avec le Seigneur, tout simplement. Mais c'était une soif d'abord de son cœur, une réalisation de quelque chose. Et il a commencé à se dire, non, bon, la télé c'est bien, mais je vais limiter mes heures de télé, et je veux passer du temps avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se passer quelque chose dans son ministère, d'abord dans sa vie personnelle et après dans son ministère. Mais c'est pas une méthode. C'est parce qu'il a commencé à réaliser qu'il s'endormait sérieusement spirituellement. Vous voyez, il n'y a pas de méthode. Dieu n'est pas dans les méthodes. Dieu, il est là où il y a ton cœur, c'est tout. Si ton cœur a soif, Dieu répond. Si ton cœur n'a pas soif, tu peux utiliser toutes les méthodes, tu peux répéter toutes les belles phrases des plus grands serviteurs de Dieu de la planète. De toute façon, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair. Et malheureusement, c'est trop souvent ce qu'on veut faire. Et ça, c'est pas de la prière, ça s'appelle de la méthode. Et dans la méthode, il n'y a pas Dieu. Par contre, là où tu as soif, là, il va y avoir le Seigneur. Et là, le Seigneur va pouvoir faire quelque chose. Il va agir. Et ça va être le développement de cette relation. Donc c'est vraiment cœur à cœur. Alors, le rôle du corps de Christ maintenant. Un sous-titre, le rôle du corps de Christ. Alors, on a vu la définition générale de la prière. Maintenant, nous allons voir notre rôle en tant qu'Église. Et rappelez-vous que nous sommes l'Église, donc le rôle du corps de Christ. Le sous-titre, c'est le rôle du corps de Christ. Nous allons voir que Jésus nous laisse sur la terre en tant que chrétien né de nouveau. Ce n'est pas pour rien. Nous avons une part à jouer qui est importante. Et cette part, si nous la jouons bien, c'est là où nous allons voir de puissants résultats. Malheureusement, souvent, je ne dis pas toujours, mais il y a souvent des gens, même des églises entières, qu'on amène à faire certaines choses et qui ne sont pas scripturaires. Et c'est bizarre, vous remarquerez dans la vie de certaines églises, vous allez voir que des fois les leaders prennent un truc qui pense être de Dieu et emmènent une église à faire tout un tas de méthodes ou tout un tas de trucs. Et en fait, ils s'écartent du rôle que Dieu a donné à l'église. C'est très courant et ça marche malheureusement trop bien. Vous savez, le diable essaiera toujours d'écarter l'église de sa raison d'être. Parce qu'il sait que si l'église marche là où elle doit marcher, dans ce qu'elle doit marcher, c'est là où l'église est puissante. S'il arrive à amener l'église à mettre sa pensée vers quelque chose qui n'est pas scripturaire, eh bien l'église perd de sa puissance. Et des fois, il y a des chrétiens qui sont en masse motivés vers des choses qui ne sont pas scripturaires. Et c'est dommage, mais des fois, on le voit, et en particulier vis-à-vis de la prière. Des fois, on réunit des gens autour de sujets de prière qui ne sont pas scripturaires. C'est triste à dire, mais ça existe. Et les gens ont l'air super motivés, et c'est ce qu'on appelle un effet de groupe. C'est un effet psychologique, où les gens pensent accomplir des choses spirituelles et passent exactement à côté de ce que Dieu a pour eux. Donc c'est important de comprendre ça. Nous avons un rôle. Regardons Éphésiens d'abord, chapitre 1, versets 22 et 23. Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23. On parle de Christ, ce que Dieu a fait au niveau de la position de Christ. Il, donc Dieu, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il l'a donné pour chef, ou pour tête, dans d'autres versions, pour tête. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps. Regardons encore Colossiens 1, 18, où nous avons la même idée, la même pensée. Colossiens 1, 18, où il est parlé de Jésus. Colossiens 1, 18, il est dit, il est la tête du corps. Il est la tête du corps. Bon, c'est clair que ici, qu'est-ce que Dieu nous montre ? Il nous montre que Christ est la tête, d'accord ? Et le corps, c'est qui ? C'est l'Église. Oh, ça paraît très simple, mais c'est une puissante vérité. Donc, la tête, c'est Jésus. Et l'Église, c'est le corps. Ok. Bon, maintenant, où se trouve la tête et où se trouve le corps ? Parce que ça aussi, c'est important. Donc dans Marc 16, verset 19, Marc 16, 19, nous montre où est Christ depuis sa résurrection. Où est Christ depuis sa résurrection ? Marc 16, 19. Il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, au troisième ciel, et s'assit à la droite de Dieu, à la droite du Père. L'aspect d'être à la droite, c'est une position d'autorité, bien sûr. C'est pas un aspect physique. Il n'y a pas un avantage d'être à droite ou à gauche de quelqu'un. D'accord? C'est un aspect, ça, littéralement, c'est à la main droite. Dans le grec littéral, c'est la main droite. C'est simplement une position d'autorité. C'est ça que ça signifie. Bon, donc nous savons que Christ est où? Christ est la tête, et il est dans le ciel. Nous sommes le corps. Et nous sommes où ? Sur la terre. Donc, Christ est la tête, il est dans le ciel. Nous sommes le corps et nous sommes sur la terre. Nous sommes l'Église de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a donné, au travers de Paul, cette révélation un peu étonnante ? Parce que vous ne trouverez pas ça dans l'Ancien Testament, ni même dans les Évangiles d'ailleurs. Parce que nous verrons que la doctrine de l'Église n'a pas été donnée dans les Évangiles, parce que Jésus ne pouvait pas donner cela avant sa mort et sa résurrection, avant de vaincre l'autorité légale du diable. Donc il faut comprendre cela. Pourquoi est-ce que Dieu donne cet aspect de dire que Christ est la tête, il est dans le ciel, et le corps c'est l'Église, sur la terre. Il fait une analogie bien sûr au corps humain. La tête c'est quoi? C'est un organe de quoi? Un organe décisionnel. La tête est l'organe décisionnel. C'est là où vous prenez la décision. La tête est l'organe décisionnel. C'est là où il y a les décisions qui se prennent. Les autres membres du corps sont quoi ? Organes exécutifs. Exécution des ordres. Le reste de nos membres sont uniquement des membres qui exécutent. Exécutent quoi ? Les ordres de la tête. Si par exemple, votre tête dit « prends ce stylo », eh bien, la tête ne peut pas prendre le stylo. Mais elle va donner un ordre au système nerveux et à ma main. Pourquoi faire ? Pour prendre ce stylo, donc pour exécuter. Et comprenez, il y a une puissante vérité ici. Il y a une puissante vérité. L'Église n'est pas un organe décisionnel. L'Église ne peut pas prendre des décisions ou des directives d'elle-même. Elle dépend de la tête qui est dans le ciel. Ça, c'est une chose importante. Mais aussi, Dieu a besoin de l'Église pour exécuter ses plans. Dieu a besoin de l'Église pour exécuter ses plans. C'est là où je vais en venir. Dieu a besoin de son Église. Ça veut dire que notre façon de prier est d'exécuter donc les ordres. Dans la prière, nous allons recevoir les ordres de Dieu, les directives de Dieu, individuellement, collectivement. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions notre rôle. J'ai un rôle, tu as un rôle, nous avons un rôle pour pouvoir exécuter ce que la tête ordonne. Dieu a besoin de son corps pour lui demander, de son corps pour exécuter ses ordres. Dieu a besoin de l'exécutif. Le décisionnel est dans le ciel concernant la marche de l'Évangile. Rappelez-vous que nous sommes là parce qu'il y a une grande mission qui est là. La mission de prêcher l'Évangile et de faire des nations des disciples. Maintenant, pour exécuter ces choses, Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas confié l'Évangile aux anges. Il l'a confié à nous, au corps. Dieu a besoin de gens, il a besoin de ces chrétiens nés de nouveau qui sont prêts à demander, à l'invoquer, à demander pour voir le ciel descendre sur la terre. Il a besoin de nous. C'est au travers de nous que les choses vont se passer. C'est au travers du corps que les choses vont se passer. C'est au travers du corps que sa volonté sera faite. Ça va passer par nous, le corps de Christ. Donc nous avons un rôle à jouer. La Bible nous dit dans Actes 1, verset 1, vous savez, il faut comprendre notre rôle, notre place. Il y a trop de chrétiens qui ne comprennent pas leur place. Ils pensent que tout est à Dieu, ça se passera si Dieu le veut. Ouais, mais Dieu, il a besoin de toi, et il a besoin de moi, il a besoin de nous, chacun d'entre nous. Parce qu'au travers de toi, il a un moyen de pouvoir exécuter sa volonté. mais il va falloir que tu sois dans le coup. Regardons un peu ce que Luc écrit à Théophile, à qui il adresse d'une part son évangile, l'évangile de Luc, et d'autre part les actes des apôtres. Regardez ce que Luc écrit. Il dit, Théophile, donc c'est à qui il s'adresse, « J'ai parlé dans mon premier livre c'est l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé, regardez bien, tout ce que Jésus a commencé, de faire et d'enseigner, regardez bien, faire et enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, il est la tête du corps, après avoir donné quoi ? Ses ordres, ses instructions, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. » Donc, qu'est-ce que la Bible nous montre ? Jésus a commencé, Jésus nous a ouvert la voie, Jésus nous a montré le chemin, comment un être humain doit vivre, doit se comporter. Quelqu'un qui est en relation avec Dieu, puisque Jésus l'était, comment un être humain doit vivre, doit se comporter vis-à-vis de Dieu, dans sa relation avec Dieu, et comment il doit porter l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Non, non, l'œuvre de Dieu, ça doit être fait seulement par les prédicateurs, par ceux qui sont dans le ministère. » Il y a une grande vérité là, mais pas seulement. Non, le seulement, c'est pas juste. Elle va être faite, oui, par les ministères, d'accord. Parce que les ministères ont l'onction pour faire ces choses. Mais individuellement, vous avez un rôle. Nous avons un rôle, individuellement. Nous avons un rôle à jouer. Et si nous ne jouons pas bien ce rôle, ça ne va pas. Vous savez, dans une équipe de foot, par exemple, si vous en avez deux ou trois qui font n'importe quoi, vous êtes sûr de perdre la partie. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Et alors les autres les blâmeront en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas à votre place, vous jouez pas votre rôle, vous défendez pas bien ou vous attaquez pas assez. » Ou le gardien de but, tu sors trop souvent, t'es jamais là. Évidemment, si on tire dans les buts, il n'y a personne pour garder les buts. Vous imaginez un peu. Chacun a son rôle à jouer dans le corps. Chacun a son rôle à jouer. Et nous sommes sur la terre pas simplement pour y vivre en attendant d'aller au ciel. Mais nous sommes sur la terre parce que nous avons un rôle à jouer individuellement. Et quand les individus s'associent ensemble, dans l'église locale, c'est alors que collectivement, nous pouvons jouer un rôle important, bien évidemment. Mais si l'individu ne comprend pas, ça ne se fera pas collectivement. Ça, c'est clair. C'est très, très clair. Donc, Jésus nous a délégué une autorité légale. Regardons encore dans Marc 16. Jésus va déléguer à l'église. Là, on a vu, il a parlé à ses disciples, d'accord, il a donné des ordres. Mais d'une manière générale, Jésus va déléguer un pouvoir, une autorité légale. Marc 16. À partir du verset 15, Jésus dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé, nous savons que celui qui croira et qui sera né de nouveau sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéri. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait ou œuvrait avec eux, remarquez bien, avec eux, et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Il travaillait avec eux. Jésus ne travaille pas seul, il ne peut pas. Je répète, il ne peut pas. C'est étonnant de dire ça, mais c'est vrai. Jésus a besoin de son corps. Et nous ne pourrons jamais accomplir la grande mission que Christ a laissée à l'Église, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de faire des nations des disciples, sans une prière efficace, mes amis. Ça, il n'y a pas de secret. Nous ne pourrons jamais accomplir cette mission correctement sans comprendre les principes de la prière. C'est bien de savoir que nous avons une autorité déléguée, mais il va falloir s'en servir et il va falloir aller de l'avant. C'est à nous d'agir. Christ nous a donné les grandes lignes de la mission, la prédication de l'évangile. Pas faire des réunions de réconciliation, je ne vois pas ça dans l'évangile, moi. Je ne vois pas ces choses-là dans l'évangile. Moi, je vois par contre prêcher l'évangile, faire des nations de disciples, c'est clair. Jésus nous a laissé une mission très, très précise. Et quand les gens ne s'en écartent pas, quand les églises ne s'en écartent pas, elles sont bénies. La Bible est claire. Si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, c'est là où la bénédiction se trouve. Si nous faisons n'importe quoi, la bénédiction ne s'y trouve pas, mes amis. Et on peut essayer de se convaincre. Vous savez, des fois, il y a des choses qui ont du succès, et on va dire des rassemblements chrétiens qui ont du succès parfois, et qui ne sont pas scripturaires. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Les gens vont dire, oh, il y avait du monde, alors Dieu était vraiment là. Hein, pas forcément. Vous savez, il y a du monde à la cathédrale. Hein. Tous les dimanches, c'est bondé à la cathédrale. Est-ce que Dieu y est ? Ça, c'est un autre problème. Il faut être clair. Nous avons une mission, elle est précise. Jésus nous l'a donnée. Mais cette mission ne pourra pas s'accomplir correctement si quoi ? Si nous ne savons pas prier efficacement. Et pour ça, il va falloir apprendre, connaître les lois de la prière efficace, comprendre ce qu'est vraiment la prière et utiliser la prière efficace. Et c'est là où justement nous verrons l'Église commencer à voir une puissance se déployer de plus en plus. Plus nous serons efficaces, plus nous comprendrons ce qu'est la prière et plus nous pourrons aller loin, plus nous pourrons voir des résultats et plus à ce moment-là, le royaume des ténèbres sera affecté par la puissance que nous pourrons déployer. Dans le cas contraire, nous pourrons passer des jours et des heures et des années à prier. Si ce n'est pas efficace, ça ne portera absolument aucun fruit. Ça ne sera simplement que de belles réunions où il y aura du monde, où ça impressionnera les gens. Une chose que vous devrez apprendre aussi, c'est que la prière collective, et nous en parlerons, est liée d'abord à notre efficacité personnelle dans la prière. La prière collective est liée d'abord à notre efficacité personnelle dans la prière. Et ça, je tiens à vous le dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens, ils se réunissent très très facilement pour aller prier pour le pays. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais si à la maison, ils sont affectés par la malaria tous les 15 jours, moi j'ai un problème avec ça. Si des gens ont des problèmes à Jérusalem, comment ils iront jusqu'aux extrémités de la terre, si vous comprenez l'image que Jésus a donnée ? Hein ? Le problème, c'est que les gens, ils ont beaucoup de problèmes personnels, et ils ne s'en sortent pas, et ils veulent aller bouleverser le monde. Ah par contre, c'est sûr, oui, le Burundi pour Jésus, et tout le monde dit « Alléluia !» Et puis tu rentres à la maison, la tête basse, parce que tu sais que ton gamin est en train de mourir d'une maladie bénigne ou des choses comme ça. Non. Il faut être clair. Il faut arrêter de jouer avec ça. Ah ça, par contre, des gens qui déclarent des super trucs, ça, on en a. Et ça fait « Oh, oui, c'est vrai, Burundi entier, oui, d'accord. Mais d'abord, chez toi, comment ça se passe ? Est-ce que toi-même, dans ta vie individuelle, tu es efficace ? Si tu es efficace dans ta vie individuelle, commence à voir autour de toi, dans ton voisinage. Et là, tu seras efficace. Puis après, tu seras beaucoup plus efficace dans ta ville. Et puis après, tu seras efficace dans tout le Burundi, il n'y aura aucun problème. Mais d'abord, ça commence à Jérusalem, à la maison. Si à la maison, il n'y a pas moyen de s'en sortir, je vois vraiment pas comment, si tu voudras prier, et tu pourras prier efficacement jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent, mes amis. Soyons clairs. Sachons faire les choses dans l'ordre. D'abord, si nous développons une vie personnelle de prière efficace, alors cette vie de prière pourra déborder sur la vie des autres. Sinon, c'est pas la peine. Si t'as que des problèmes à la maison, que tu pries, il se passe rien. Vous savez, il y a des gens qui fuient leur maison pour aller être fourrés à l'église toute la journée parce qu'à la maison, ça ne va pas. Ça, je vous le dis. Il y a des gens qui passent soi-disant du temps dans certaines églises où c'est ouvert toute la journée pour aller soi-disant prier, alors que quand ils rentrent à la maison, c'est des problèmes avec le mari, c'est des problèmes avec la femme, c'est des problèmes avec les enfants, c'est des problèmes à droite, c'est des problèmes avec le voisin, c'est des problèmes à gauche, etc., etc. Soyons clairs. D'abord, apprenons à résoudre nos problèmes personnels au travers d'une prière efficace, d'une vie personnelle de prière avec le Seigneur qui se développe, d'une relation qui se développe. Puis après, allons que ça déborde sur les autres. Ça, d'accord. Mais ça ne débordera jamais sur les autres. Si d'abord, toi-même, tu n'es pas efficace dans tes propres prières et dans ta relation avec Dieu. On verra la suite la prochaine fois.
IBEM, Institut Biblique Enseigne-moi, la formation biblique par excellence. Des enseignements de grande qualité spirituelle et loin.
Vous écoutez un cours de première année, année qui comprend plus de 300 heures de cours en audio et vidéo.
Institut Biblique Enseigne-moi, pour ceux qui ont soif de grandir.
Rendez-vous sur www.ibem.fr.